Bonsoir à tous, il est 19h à Dakar, Abidjan et Conakry, 15h ici à Washington, Clermont-Ferrand, avec vous en direct. Bienvenue dans notre bulletin d'information. En Côte d'Ivoire, Kouadio Konan Bertin, candidat indépendant à l'élection présidentielle du 31 octobre, s'est engagé aujourd'hui dimanche à servir pour la paix et l'unité nationale lors de sa cérémonie d'investiture devant 2000 personnes réunies au Palais de la Culture d'Abidjan. Cet ancien député de 51 ans est un dissident du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le PDCI, principale formation d'opposition, l'a sanctionné vendredi en l'excluant temporairement. Surnommé KKB, il se veut le candidat des jeunes et s'est opposé à la désignation comme candidat du PDCI de l'ex-chef de l'État, Henri Konan Bédié, qui a 86 ans. À seulement 2 semaines de l'élection présidentielle en Guinée, le président Alpha Condé a appelé ses partisans hier à ne pas basculer dans la violence alors que les tensions politiques s'intensifiaient à l'approche du scrutin. C'est un changement de ton car le président guinéen avait parlé de véritable guerre en septembre. Le président Alpha Condé brigue un troisième mandat controversé. Au Sénégal, un violent incendie a ravagé la nuit dernière le parc Lambaye, un marché historique de Dakar, spécialisé dans la brocante et les boiseries. Aucun mort n'est à déplorer. Le Sénégal qui se prépare également à son premier rassemblement depuis le début de la pandémie du coronavirus, le Magal de Touba, est prévu mardi prochain. Au Nigeria, les forces spéciales de la police ont été interdites de mener des opérations de routine. Elles doivent se cantonner désormais à leur fonction de lutte contre la grande criminalité. Ces forces fédérales sont souvent accusées de brutalité. Les médecins traitant le président américain Donald Trump ont révélé aujourd'hui que leurs patients hospitalisés pour Covid-19 avaient connu 2 épisodes de baisse transitoire de sa saturation en oxygène. Malgré cela, le fait est qu'il va très bien, c'est ce qu'a déclaré le médecin principal du président, le docteur Sean Conley, aux journalistes. Par ailleurs, la ville de New York est prête à reconfiner les écoles et commerces non essentiels dans 9 quartiers de Brooklyn et du Queens, où les cas de coronavirus sont en forte hausse depuis 2 semaines. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le maire Bill de Blasio. L'élu démocrate a indiqué qu'il voulait reconfiner ses quartiers à partir de mercredi et qu'il attendait l'aval du gouverneur de l'État, André Cuomo. L'Azerbaïdjan a réclamé le retrait arménien du Nagorno-Karabakh, où les bombardements sur les zones urbaines se sont intensifiés, suscitant l'inquiétude pour les civils au 8e jour de combat entre forces séparatistes arméniennes et armées azerbaïdjanaises. Au Bélarus, la police a annoncé ce soir avoir procédé à des arrestations et utilisé un canot à eau contre les manifestants qui étaient de nouveau des centaines de milliers à Minsk, la capitale, pour dénoncer la réélection jugée frauduleuse du président Alexandre Loukachenko le 9 août dernier. Au Liban, la ville de Beyrouth commémore 2 mois depuis l'explosion au port qui a fait plus de 190 morts et 6500 blessés. 2 mois plus tard, l'enquête des autorités libanaises n'a toujours pas abouti et aucun résultat n'a été rendu public. En France et en Italie, les crues qui ont dévasté vendredi des régions du sud-est de la France et du nord de l'Italie ont fait au moins 4 morts et laissé derrière elles de véritables scènes de désolation. Des centaines de personnes ont tout perdu. Et puis un peu de sport pour finir ce journal. Marathon de Londres, l'Éthiopien Shura Kitata l'a emporté au sprint en 2h, 5 minutes, 41 secondes. Après avoir porté une accélération à laquelle n'a pas résisté le favori kényan Eliud Kipchoge, qui enregistre sa première défaite en 7 ans. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Pour plus d'informations, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. C'était Claire Morin-Gibourg. Excellente fin d'après-midi, début de soirée à l'écoute de...
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonjour madame, bonjour messieurs, merci de nous écouter sur VOA Afrique. Bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Manilakiza avec vous au micro. Lionel Lunanea Galima assure la mise en onde. Ce soir, nous parlons de l'émotion et de la dépendance affective. L'homme et l'émotion. L'homme étant un animal social par définition, chacun d'entre nous a besoin de relations avec les autres. Mais on est souvent emporté par la vie professionnelle, les projets d'avenir, les réalisations, le succès, etc. Il existe bien des situations où la relation à l'autre ou aux autres entraîne bien des souffrances. On peut parler de la relation de couple qui en est peut-être l'illustration la plus marquante lorsqu'un des membres du couple ne parvient pas à exister et à vivre sans la présence de l'autre à ses côtés. La dépendance affective est de plus en plus courante et peut s'avérer dangereuse pour la stabilité du couple. De l'autre côté, il y a de l'émotion. On parle de l'existence d'une souffrance occasionnée par l'événement difficile. La charge émotionnelle entraîne souvent l'envahissement du quotidien. L'origine de cette relation problématique remonte à la plus tendre enfance, dans les premières années de vie de l'enfant, ce qui crée plus tard un repli important sur lui. Nous en parlons dans un instant avec nos deux invités. Eric Manilakiza est avec nous. Ce soir, le dialogue des religions reçoit le pasteur Louis Armand Paulin. Il est au Canada. Pasteur Paulin, bonsoir.
Bonsoir mon frère et je te remercie pour l'invitation et je suis tellement content de partager avec vous. Je salue tous les auditeurs, auditrices. Encore une fois, c'est vraiment un privilège de partager avec vous.
Notre deuxième invité s'appelle Emmanuel Bouramatali, connu sous le sobriquet de Chichi. Chichi, bonsoir.
Oui, bonsoir mon frère Eric. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Et c'est un privilège de pouvoir partager avec tous les auditeurs et auditrices de la Voix d'Amérique par rapport à ce sujet qui me tient tellement à cœur.
C'est un surnom que vous aimez beaucoup, n'est-ce pas?
Oui, ça me rappelle mon enfance. Ceux qui m'appellent comme ça, c'est des gens qui me connaissent depuis très très longtemps et c'est très affectif.
Et le Chichi te poursuit toujours?
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Pasteur Armand, on parle de la dépendance affective. Comment l'expliquer d'une manière simple?
D'une manière simple, évidemment, c'est une bonne question quand même. D'une manière simple, je dirais, c'est quand on sent un vide en soi. C'est la manière la plus simple, je pense, de l'expliquer. C'est quand quelqu'un sent un vide en lui qu'il doit toujours essayer de combler par quelque chose.
Donc c'est lié à un comportement. Est-ce que cette dépendance peut être ou devenir une addiction, tout court?
Oh oui, absolument. Et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. C'est pour ça aujourd'hui qu'on en parle. Parce que si on dit que ce n'est pas important, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, comme je pense au début de l'émission, tu parles que beaucoup de gens courent dans beaucoup d'activités, n'ont pas le temps. Hein. Et c'est ça qui cause qu'on laisse ces choses grandir en nous. Alors, il faut qu'on en parle, il faut en prendre soin. Et sinon, ça peut devenir très dangereux et ça peut être très, très catastrophique pour la famille et aussi pour soi-même. Alors, il faut en parler, il faut en prendre soin.
Emmanuel, vous avez récemment organisé une conférence autour de cette question. Quelle a été la motivation ou qu'est-ce qui vous a interpellé?
Ah, écoute, c'est une très bonne question. Et quand on a organisé dans le cadre de Family First cette conférence sur libérer de la dépendance affective, l'idée derrière, la motivation derrière, c'est justement de pouvoir trouver une plateforme pour en parler. Comme le dit si bien le pasteur Louis Armand, c'est une question qui est très courante, mais qui n'est pas très vulgarisée. Les gens ne savent pas réellement. Ils sont souvent ignorants de leur état d'esprit, leur état émotionnel. Et ce vide-là existe dans la grande majorité pour des raisons que tu as évoquées d'enfance, absence d'un des parents pour des raisons peut-être médicales, parce que les parents sont morts, parce qu'il y a eu divorce, parce qu'il y a eu séparation, parce qu'on n'a pas voulu de l'enfant. Il y a plusieurs raisons qui sont présentes dans notre société actuelle Et les gens, quand on grandit, quand on devient adulte et qu'on est dans une relation amoureuse ou dans le mariage, ça ressort d'une façon ou d'une autre, parce que ce vide-là n'est pas comblé. Et trouver une plateforme pour pouvoir en parler de manière authentique, avec les hommes notamment, parce que c'est, ça peut toucher autant les hommes que les femmes, mais nous avons tenu à ce que ce soit fait avec des hommes, parce que l'homme, en général, masculin, a du mal à exprimer ses émotions, a du mal à trouver un cadre pour pouvoir parler ouvertement de ce qu'il ressent. Et c'est là que nous voyons beaucoup plus de violence, de plus en plus en Occident et en Amérique du Nord, on parle plus des drames familiaux où les hommes arrivent jusqu'à à tuer leur conjointe ou à tuer les enfants pour des raisons de manque de gestion, de colère ou de frustration de la société. Donc c'était important de trouver ce cadre-là et ce n'est qu'un début, je pense, pour pouvoir permettre aux gens autour de nous de pouvoir parler de ce mal qui est très profond dans notre société.
Et comment savoir si on est dépendant affectif?
Ah, écoute, il y a plusieurs signes, hein. Le signe le plus important, comme disait lui Armand, c'est vraiment le fait d'avoir un vide. Et ça se justifie par la peur d'être dans la solitude, d'être seul. Quand on est seul, on se sent mal, on veut avoir l'approbation des autres, on veut attirer l'attention de l'autre, on veut être sûr que l'autre t'a vu, t'a reconnu dans ce que tu fais. Et il y a la colère parce qu'on est insatisfait peut-être du feedback qui t'a été donné. On est dans la jalousie, on est dans plusieurs excès en fait. On est dans la dépendance affective, c'est parce qu'on veut que l'autre nous approuve dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes. Et nous ne pouvons pas exister sans l'autre, que ce soit dans la relation amoureuse ou dans les relations amicales tout court. On veut prendre le contrôle aussi. Donc il y a plusieurs aspects qui peuvent ressortir dans cet état d'esprit-là. Donc il y a une grosse différence entre une relation amoureuse, si on parle juste de la relation amoureuse, et d'une relation de dépendance. Exemple simple, quand dans une relation amoureuse, les deux partenaires sont interdépendants, ils partagent de l'affection, ils sont engagés ensemble. Alors que dans une dépendance affective, on est incapable d'être heureux tout seul. On se sent mal parce que on veut que l'autre puisse approuver ce qu'on est et on recherche constamment à plaire. Donc c'est quelque chose qui devient assez très très fatigant pour les deux parce que d'une part, la personne qui souffre de cette dépendance-là veut attirer l'attention et l'autre, de l'autre côté aussi, cherche à combler ce vide et il est incapable de le combler parce qu'il est toujours grugé dans son énergie.
Il y a un point aussi, bien dit mon frère Emmanuel,
oui.
il y a un point aussi essentiel aussi quand on parle de dépendance affective, c'est quand il y a une crise, ça là, c'est très important de le mentionner, c'est quand il y a une crise, soit dans un couple, soit dans une famille, c'est là que tu vas voir la personne qui est dépendante affective, comment elle va réagir. Souvent, c'est par la colère, ou bien la personne aussi va essayer d'éviter la situation. Parce que la personne n'a pas de ressources évidemment internes pour faire face à la situation. Il y en a qui vont à l'extrême, hein, peut-être ils vont aller dans la pornographie, ils vont aller avoir des relations vraiment
extra-conjugales.
Exact. Donc on parle d'adultère, de beaucoup de choses. Donc je reviens un peu à ça. Il faut regarder la réponse qu'on donne à une crise. Quand il y a une crise dans un couple, quand il y a une crise dans une famille, il faut regarder le comportement de la personne qui est dépendante affective.
On va y arriver, Pasteur Paulin, mais quels sont d'autres signes qui prouvent qu'un couple va mal?
Oh my God, c'est une excellente question. Premièrement, c'est la communication. Même hier soir, je parlais avec ma femme par rapport à ça, c'est la communication. Un couple qui ne se parle pas, il y a un problème. Parce que on est créé, on est né pour communiquer, pour parler de nos problèmes, de nos difficultés. Donc quand on arrive à ne pas avoir de communication, peu importe la nature, hein, même si on est en colère, même si on est déçu de la situation, on doit pouvoir se parler. Moi, je pense que la communication, c'est la première chose.
Pasteur, Paulin, quand on prie, on a à la foi qui est forte, etc. Des fois, on pense qu'on est à l'abri de ce genre de situation. Est-ce que avoir la foi, ça t'exonère de tomber dans ce genre de situation?
Non, au contraire, c'est bizarre, mais Dieu nous donne la foi, c'est un moyen pour s'en sortir. Et dans toute la Bible, Dieu n'a jamais vraiment fait en sorte que tous ses enfants soient protégés des situations. Au contraire, on passe à travers des situations terribles. C'est avec la foi qu'on va s'en sortir. Et la foi, c'est le moyen de s'en sortir. c'est à cause de la foi qu'un parent ou un mari ou une femme dans une situation de dépendance affective va s'en sortir. Donc c'est, la foi, c'est un moyen de s'en sortir. Et personnellement, je peux témoigner, c'est à cause de la foi, parce que moi, j'étais très dépendant affectif pendant longtemps de ma vie. Moi, je ne le savais même pas. Mais c'est quand j'ai analysé mes comportements, et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, j'avais ce mal en moi. Et donc, c'est la foi en Dieu qui m'a permis de m'en sortir. Et je crois que peu importe la personne qui écoute présentement, qui a ce genre de difficulté dans sa vie, si la personne croit en Dieu, elle doit commencer à agir. Alors, quand on parle de la foi, moi, je parle beaucoup de foi agissante. C'est pas une foi passive où on reste là, on fait absolument rien. La Bible ne prêche pas ce genre de foi. Donc, si on croit en Dieu, on doit commencer à agir. On doit se dire que il y a un problème dans ma vie, je suis dépendant affectif, j'agis mal avec mon conjoint, ma conjointe, et je dois absolument commencer à travailler sur moi-même pour être une bonne personne, pour être une meilleure personne. Et ça, c'est à cause de la foi. À cause qu'on croit en Jésus, à cause qu'on croit que son esprit vit en nous, on doit vivre selon le fil de l'esprit. Donc, il parle d'amour, de tempérance et vraiment de la paix, de la foi. Alors, c'est vraiment extrêmement important. La foi, c'est un moyen de vraiment de sortir dans les difficultés, dans les sentiers battus, des problèmes de la vie. Et je crois que ce monde dans lequel on vit, si les gens avaient la foi, on vivrait dans un monde totalement différent aujourd'hui.
Emmanuel, est-ce que cette dépendance affective, c'est un problème réel que vous rencontrez au quotidien? Je ne le dis pas individuellement, mais est-ce que vous le voyez dans votre entourage?
Oui, même, le pasteur Luc, à moins qu'il est mon frère, l'a témoigné. Moi aussi, pour arriver à cette mission que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est parce que je l'ai vécu personnellement. Et c'est un cheminement de longue haleine. Hein. Donc, je donnerai un exemple simple. Regardez autour de nous et de vous les gens qui, se retrouvent en relation amoureuse et qui, du jour au lendemain, la femme ou la conjointe ou la copine tombe enceinte. Qu'est-ce qui se passe? La plupart de ces personnes qui ont des problèmes de dépendance affective se retirent de la relation ou gèrent avec colère cette relation. C'est le cas de plusieurs jeunes hommes, plusieurs messieurs. Dès qu'il y a un enfant qui vient dans le décor parce que la femme est enceinte, carrément le monsieur se fâche, il devient inconstant, il devient un peu difficile à gérer. Pourquoi? Parce que l'objet de son attention n'est plus là. La personne qui est la femme ou la conjointe commence à avoir une attention sur son bébé. Et c'est un signe très palpable que tout le monde peut observer. La plupart des relations deviennent chaotiques à ce niveau-là. Et c'est à cause de la dépendance affective. C'est un exemple qui me parle beaucoup.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Vous écoutez le dialogue des religions sur VOA Afrique. Eric Manirakiza est avec vous à la présentation. On parle de l'homme et de son émotion, la dépendance affective. Pasteur Paulin, comment gérer ce genre de situation?
Comment gérer ce genre de situation? C'est une excellente question. Je pense que d'abord, il faut reconnaître qu'on est dépendant affectif. Parce que le problème, surtout, Eric, c'est que la plupart des hommes, surtout, ne vont pas l'admettre. On va vivre dans une espèce de déni. On va tout le temps essayer d'accuser la conjointe ou la femme. Et on va tout le temps essayer de trouver d'autres façons de ne pas adresser le problème. D'abord, il faut admettre qu'on a un problème. Ça, c'est la première chose. Maintenant, quand on admet qu'on a le problème, il faut chercher de l'aide. Il faut, s'il y en a qui sont des chrétiens, il faut chercher des ministères. Il y a des ministères qui aident les gens à sortir de cette problématique. S'il y en a qui ne sont pas des chrétiens, peut-être, et qui sont, je ne sais pas, il y a quelqu'un d'autre religion, ils peuvent aussi aller consulter soit un psychologue ou un sexologue, des personnes qui pourront vraiment les aider à sortir de cette problématique. Moi, personnellement, dans ma vie, quand j'avais pas les comportements adéquats, parce que j'étais un chrétien toute ma vie, élevé à l'église, et j'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses qui ont fait mal à moi-même, à ma famille, donc c'est là que j'ai commencé à me repentir. Si on est chrétien, si on est quelqu'un qui vit à l'église, qui dit qu'il a la foi en Jésus-Christ, il doit commencer d'abord par la repentance. Et la repentance, je pense, c'est la voie la plus facile, je pense, et la voie la plus rapide aussi pour sortir de cette problématique. Et évidemment, il y a un côté spirituel là-dedans aussi qu'il faut voir, parce que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour non seulement pardonner nos péchés, mais aussi enlever l'iniquité qui est en nous. David, le grand David, un homme puissant, un homme, peut-être l'homme le plus puissant de son époque, il était vraiment au summum de sa carrière, de sa vie, est tombé totalement en bas dans le péché à cause d'une femme. Et donc, malgré la puissance que David avait, mais il est totalement tombé dans le péché à cause d'une femme. Et David a compris et il a dit que moi je suis dans le péché, dans l'iniquité qui était en lui. Et donc, chaque personne ici, chaque homme qui écoute l'émission aujourd'hui doit reconnaître qu'il y a un problème en nous, il y a l'iniquité en nous, que nous avons ce genre de situation en nous qu'on doit régler ça. Et donc, si on est chrétien, on peut commencer par la repentance et demander au Seigneur d'enlever cette iniquité qui est en nous, là, qui nous cause des problèmes. Moi, personnellement, le Seigneur m'a totalement guéri. J'ai eu un rêve. Et dans le rêve, le Seigneur a enlevé quelque chose, littéralement enlevé une chose en moi. Et depuis lors, je vis une vie de paix. J'ai plus de crise. Quand les situations de crise arrivent dans ma vie, dans ma famille, je n'ai plus les comportements que j'avais avant. Et donc, c'était très, très spirituel. Alors, quelqu'un qui n'est pas, comme je dis encore, qui n'est pas chrétien, peut aller chercher de l'aide au niveau de psychologue, au niveau psychothérapeute, même aussi au niveau de sexologue, pour savoir comment au moins adresser le problème. Mais moi, je crois que la solution finale passe avant tout par Jésus-Christ, qui est le sauveur de l'humanité. Et c'est là, je crois, qu'on peut avoir une solution finale, comme moi, je l'ai dans ma vie. Je ne vis plus avec cette dépendance affective. Je suis un homme bien, un homme qui vit en paix, malgré les circonstances.
Emmanuel, la dépendance affective peut être une destruction individuelle ou même de toute une famille. Est-ce que c'est un point qu'on touche, par exemple, dans les enseignements, dans les églises?
Je te répondrai honnêtement que très peu d'églises, très peu de communautés parlent en fait de cette situation. En fait, il faut savoir que l'église a deux missions, deux grandes missions. La première mission, c'est vraiment d'évangéliser, c'est-à-dire d'amener les âmes vers le Seigneur. Et la deuxième mission, c'est de prendre soin en fait de ces âmes-là. Et au niveau de la prise de soin des âmes, il y a bien sûr, comme l'a dit le pasteur Paulin, il y a des ministères qui sont inclus. Et la plupart des églises, malheureusement, n'ont pas de ministères qui permettent aux gens de pouvoir adresser leurs problématiques de couple, notamment les problèmes reliés à la dépendance affective. Donc, c'est tout récemment que même la relation d'aide, quand on parle, est devenue plus ou moins acceptable dans certaines communautés. Il faut comprendre que c'est très récent parce que la psychologie a été toujours vue comme étant une science qui est païenne. Alors, depuis une dizaine d'années, de plus en plus des pasteurs qui se spécialisent dans la relation d'aide, qui est une façon d'allier en fait la psychologie, la gestion des émotions avec sur la lumière, sur la base de la lumière de la parole de Dieu. Donc c'est très important, moi je dirais, au niveau des communautés, des églises, qu'il y ait cette relation d'aide et qui puisse exister. Ça pourrait permettre à beaucoup, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens de pouvoir trouver l'aide qu'il faut pour pouvoir s'en sortir. Sinon, ce qu'on remarque, c'est quoi le plus possible? C'est que les gens vont de plus en plus chaque fois à l'église dimanche. Et une fois qu'ils sortent de leur église, ils ont chanté, ils ont loué, ils sont contents. Ils rentrent à la maison, c'est la crise qui revient. Donc c'est comme une vie qui est vraiment une vie d'oppression, une vie qui n'est pas une vie d'épanouissement. Ce n'est pas une vie qui nous a été promise par Jésus, qui est la vie en abondance. Donc les gens vivent de jour le jour avec beaucoup de crises, beaucoup de situations difficiles. Et ils vont chercher un peu du réconfort dimanche pour chanter, pour louer. Et puis ils rentrent et ils revivent la même chose. Et ce n'est pas ça la vie d'un chrétien. Ce n'est vraiment pas ça la vie d'un chrétien.
Et jusqu'où faut-il tolérer justement cette dépendance affective pour éviter de vivre dans une vie de compromission, Emmanuel?
Écoute, je pense que si une personne dans le couple remarque qu'il y a une dépendance affective, il faudrait, comme l'a dit le pasteur Paulin, l'adresser. Il faudrait prendre le temps de parler de cette situation avec amour, parce que souvent, quand les gens sont démunis, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment la chicane qui prend place, c'est-à-dire il y a des conflits et on a du mal à gérer les conflits et puis après on parle de divorce, on parle de séparation. Parce que les gens n'ont pas pas su, en fait, réellement adresser le vrai problème. Parce que les gens se focalisent sur les conséquences. Ah, telle personne a parlé avec colère, telle personne a réagi de manière très mal à mon égard, donc je réagis à cela. Et ne cherche pas la vraie source de conflit, la vraie source du problème. Alors, dès qu'on met le doigt sur la dépendance affective et qu'on en parle avec le soutien, bien sûr, d'un frère ou d'une sœur qui est avisée, qui est mature dans la foi, il y a moyen de faire un bon cheminement. Parce que ce n'est pas quelque chose qui peut être traité du jour au lendemain. Nous savons que notre Seigneur Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Nous savons qu'il est capable de tout et même des miracles. Mais c'est un cheminement personnel qu'on doit avoir. On doit être engagé dans ce cheminement de guérison en passant par la repentance, comme on l'a déjà souligné, en passant par la reconnaissance du problème, mais aussi en travaillant sur soi-même. Et ça passe aussi par l'introspection. C'est, si aujourd'hui le pasteur Paulin parle d'avoir remarqué ce qui s'est passé dans son couple, dans sa famille, et d'avoir trouvé des correctifs à ça, c'est parce qu'il y a eu une introspection. Il y a quelque part, on doit rentrer en soi-même, un peu comme le fils prodigue, rentrer en soi-même et prendre des résolutions pour pouvoir s'en sortir.
Emmanuel, en 20 secondes, quelle est la place de la prière pour vaincre cette dépendance affective?
C'est une très bonne question. C'est une place centrale. Je terminerai en disant que dans Jean 8, 32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Donc la première chose, comme on l'a dit, c'est vraiment de connaître la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. La vérité, c'est que Jésus est venu pour guérir les blessures et nous libérer, en fait, de la dépendance affective. Et quand tu parles de prière, je pourrais dire aussi que cette parole qui dit dans Jean 15, 7, qui dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc c'est à travers la prière que nous aurons la libération de notre dépendance affective, c'est à travers la prière que nous allons avoir une vie en abondance, comme on l'a dit très bien dans cette émission.
Pasteur Paulin, est-ce qu'on peut dire que la dépendance affective est une fatalité?
Oh oui, oh my God, mon frère, c'est une destruction, ça amène beaucoup de problèmes. Et je suis content que j'ai mon frère ici, Emmanuel, avec son ministère, le ministère Family First, ce ministère qui parle beaucoup de ces choses, qui parle beaucoup de la famille. Et effectivement, si on fait semblant que ça n'existe pas, ça peut être très fataliste, ça peut frapper beaucoup, ça peut faire mal. Ça, en fait, c'est quelque chose qui est venu contre la famille. La dépendance affective est contre la famille, est contre l'institution que Dieu a créée pour que nous puissions vivre. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument en prendre soin. Il faut absolument régler ce problème. Parce que ce qui arrive, c'est que, comme mon frère l'a dit tantôt, là, on va dans les églises le dimanche. Moi, c'est comme ça que j'étais aussi. À chaque dimanche, on va à l'église et puis on est beau à l'église, on est très bien. Et quand on arrive à la maison, c'est la guerre. Moi, j'ai vécu ça là, longtemps, je l'ai vécu ça, une situation terrible. On est bien à l'église, tout le monde nous voit, on est de bons frères, de bonnes sœurs, mais quand on arrive à la maison, c'est la guerre avec les enfants, beaucoup de situations. Alors, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut qu'on en parle, il faut traiter ça rapidement, il ne faut pas attendre du tout.
Nous arrivons au terme de ce dialogue des et religions. Merci à vous, Emmanuel Bourabatali, dit Chichi.
Vous merci beaucoup.
Family First Ministry, merci pour votre contribution dans cette émission.
Merci beaucoup, Eric, pour l'invitation. Je suis très touché par votre souci de pouvoir apporter une contribution dans l'édification du corps du Christ.
Pasteur Louis-Armand Paulin, merci beaucoup de votre contribution. On n'a pas épuisé la question. Nous devons y revenir, n'est-ce pas?
Absolument, absolument. Je te remercie, mon frère Eric. Et j'allais le dire, c'est quand on va revenir. Évidemment, nous sommes disponibles, nous sommes des serviteurs de Dieu et nous voyons les souffrances, nous voyons les difficultés et nous sommes là pour vous servir. Et à tout moment, mon frère, vous pouvez toujours nous appeler. Emmanuel et moi, nous serons disponibles pour partager avec vous. Écoutez, il faut échanger, il faut vraiment qu'on puisse trouver une entente. Moi, j'aime vraiment voir mes frères et mes sœurs vivre la vie abondante que Jésus-Christ est venu nous donner. Alors, je te remercie encore une fois, vraiment de tout cœur. Je te remercie, mon frère. Sois béni, mon frère.
Merci, pasteur Paulin. À nos auditeurs, aide-toi, le ciel t'aidera. Il ne faut pas attendre que cette dépendance affective vous dé-
détruisent. Merci à Lionel Manila Gaïma qui a assuré la mise en onde. Eric Manila Kiza vous souhaite une excellente soirée. À tous, à la prochaine.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.